DW. Pulsation.
C'est un monument de la musique africaine qui a succombé au Covid-19 la semaine dernière. Pulsation rend hommage à Manu Dibango aujourd'hui avec une biographie musicale du saxophoniste camerounais. Tout d'abord, le mot du jour, quarantaine. Bonjour à tous, c'est Yann Durand au micro et ces pulsations produit aujourd'hui dans des conditions un peu particulières. Coronavirus oblige.
Le saviez-vous ?
Le coronavirus domine l'actualité et les mesures de confinement sont de mise dans la plupart des pays concernés. L'occasion pour Pulsation de revenir sur l'origine et la signification du mot « quarantaine ». Il est apparu dans la langue française à la fin du XIIe siècle. Il vient de l'italien « quaranta », le chiffre 40, et signifie à l'origine la séparation, la détention et la ségrégation de sujets dont on pense qu'ils pourraient être porteurs d'une maladie contagieuse. Pourquoi ce délai de 40 jours ? Eh bien, cela remonterait à Hippocrate, médecin et philosophe grec qui, 500 ans avant Jésus-Christ, aurait estimé qu'une maladie grave se manifeste en l'espace de 40 jours. Certaines sources évoquent le fait que Pythagore prêtait au chiffre 4 des vertus mystiques et d'autres rappellent que le chiffre 40 revêt une grande importance dans les textes chrétiens, par exemple le jeûne de Jésus dans le désert qui a duré 40 jours. Aujourd'hui, il y a deux façons de mettre en œuvre une quarantaine. Soit on écarte un ou plusieurs individus qui présentent les symptômes de la maladie, ou on isole pendant la période d'incubation toutes les personnes susceptibles d'être infectées, même si elles ne présentent aucun signe de la maladie. Dans ce cas, il s'agit alors d'assurer que si la maladie se déclare chez eux, ce soit dans un espace protégé permettant d'éviter la propagation souvent exponentielle. Un beat irrésistible, une ligne de basse dansante, une phrase de saxophone percutante et un chant parlé qui vire au mantra. C'est la recette qui a fait de ce refrain un des plus repris dans le monde de la musique pop. C'est aussi ce que la postérité retiendra le plus de l'héritage musical de Manu Dibango qui nous a quittés il y a une semaine des suites du Covid-19 à 86 ans. Soul Makossa, immortalisé notamment par Michael Jackson dans Wanna Be Starting Something, n'était pourtant pas destiné à être aussi célèbre. À l'origine, la chanson n'est que la face B d'un disque 45 tours avec un hymne pour soutenir l'équipe nationale de football lors de la CAN disputée au Cameroun en 1972. Mais les Lions Indomptables sont éliminés prématurément et le disque tombe dans l'oubli. Mais la chanson toute simple de la face B est déjà culte aux États-Unis et la carrière de Manu Dibango, qui a déjà la quarantaine, prend son envol. Il rencontre les stars américaines de la soul et du jazz et le président Houphouët-Boigny lui propose dans la foulée de diriger l'orchestre de la radio-télévision ivoirienne. Pourtant, ce destin n'était pas écrit. Manu Dibango a bourlingué. Né à Douala le 12 décembre 1933 d'un père fonctionnaire et d'une mère couturière, il est formé au chant à la chorale et baigne dans la musique française, américaine et cubaine dès le plus jeune âge. Envoyé en France pour finir sa scolarité, il débarque en 1949 à Marseille avec 3 kilos de café, denrée rare à l'époque, pour payer ses premiers mois de pension. Il rencontre très vite le saxophone et son compatriote Francis Bébé qui l'initie au jazz. Son père lui coupe les vivres parce qu'il ne se concentre pas suffisamment à ses études et c'est en Belgique qu'il va régulièrement se produire dès 1956 à Bruxelles, Anvers ou encore Charleroi. Son jazz se teinte alors d'africanité au contact notamment de la diaspora congolaise. Après un séjour de 2 ans au Congo justement, prolongé au Cameroun où il lance le twist, il revient en France et crée en 1967 son premier orchestre tout en collaborant avec de nombreux artistes français comme Dick Rivers ou Nino Ferrer pour lesquels il est le plus souvent au clavier. il trouve définitivement son style avec son groupe en produisant d'innombrables enregistrements pour les radios, pour des campagnes publicitaires ou pour des films. De cette période, on retiendra par exemple Pépé Soupe. Manu Dibango n'est pas un saxophoniste virtuose qui s'envole dans des solis sans fin avec des tonnes de notes. Il s'applique plutôt à faire tourner une phrase en accord avec le reste, grâce à son sens du rythme et de l'harmonie. Il aime le travail d'équipe et ne recule devant aucune expérience. Dans les années 80, il rassemble autour de lui de nombreux grands noms de la musique africaine internationale pour un projet humanitaire qui lui tient à cœur. Chanté pour l'Éthiopie en proie à une terrible famine à l'époque, aux côtés de Salif Keita, Mori Kanté, Touré Kounda ou Ray Lema. Mais l'expérience est douloureuse pour lui, car les réalités du business s'avèrent compliquées pour une action basée sur le bénévolat et la bonne entente. Les années 80 sont aussi marquées par un détour vers un style musical qu'il apprécie, le rhythm and blues et le funk d'Otis Redding et de James Brown. Alors, en 1985, une collaboration avec Bill Laswell lui permet de prendre cette direction avec en plus une touche électronique dans l'album Electric Africa qui contient notamment ce titre, Africa Funk. Que prétexte pour faire de la musique aux yeux de Manu Dibango. Il maîtrise l'art de la rencontre, le goût du partage. Sa vita, mais aussi sa qualité de multi-instrumentiste, font du musicien camerounais une entité musicale non identifiable, mais avec un dénominateur commun. Lorsqu'on lui demande de définir sa musique, il répond « afro quelque chose ». D'ailleurs, le mot le plus utilisé dans les titres de ses albums ou de ses chansons est « Africa ». Pour l'illustrer musicalement, quoi de mieux que son soul Makossa revisité en reggae avec les Jamaïcains Sly et Robbie dans Reggae Makossa. Hip-hop avec le Britannique Wayne Beckford dans Soul Makossa 2.0. Dans la lignée du concept musical de Manu Dibango de promouvoir l'Afrique et sa diaspora, il y a un projet qui marquera les esprits. En 1992, pour fêter ses 60 ans, on lui propose d'enregistrer Wakafrika. Il s'agit d'un album de reprise des plus grands tubes africains avec les stars du continent et les musiciens internationaux. Youssou N'Dour, Kingson Yadé, Angélique Kidjo, Papa Wemba, Lady Smith Black Mambazo, mais aussi des noms d'Africains comme Peter Gabriel ou Sinéad O'Connor. Et bien sûr, l'incontournable Salif Keita sur Emma. Manu Dibango a été le premier Africain sur la fameuse scène new-yorkaise de l'Apollo Theater à Harlem en 1973. Et c'est lui encore qui, près d'un demi-siècle plus tard, devait se produire sur celle du non moins célèbre Carnegie Hall le 14 mars 2020 pour fêter les 60 ans de la béninoise Angélique Kidjo. Mais l'événement est annulé car le coronavirus est déjà là. Le virus qui a fini par emporter le troubadour aux multiples visages. Au-delà de son engagement pour la cause africaine, son franc-parler, c'est son audace musicale qui aura fait de lui la figure qu'il est devenu. Lui qui osait tout en musique, comme ce clin d'œil utilisé pour une publicité pour du poulet, et sur lequel on se quitte. Groovy Flute. Voilà, c'est la fin de cette édition de Pulsation. Le podcast est disponible sur dw.com/français. Merci de votre attention et à très bientôt sur la DW. Salut! We'll be right back.